Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
Camille Grodidier pour un bulletin d'information. La Guinée a déployé une caméra à l'aéroport de Conakry pour aider à juguler l'épidémie de fièvre à virus Ebola qui a fait plus de 100 morts. Nous avons installé une caméra thermique pour nous permettre de prendre la température de tous les passagers qui entrent dans l'aéroport et se dirigent vers la zone d'enregistrement des bagages, a expliqué Abdelkader Yumbuno, directeur général adjoint de la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry. Si un passager a une température supérieure à 38 degrés Celsius, l'alerte est donnée, a-t-il dit. Élections présidentielles et législatives dimanche en Guinée-Bissau, un scrutin prévu en 2013 mais qui a été retardé par le manque de fonds. 13 candidats se présentent à la présidentielle, 15 partis sont en lice pour les législatives. Les gagnants devront rétablir la stabilité dans ce pays encore sous le choc du coup d'État militaire il y a 2 ans. Si aucun candidat à la présidence n'obtient la majorité absolue, un second tour est prévu en mai. Le Mali traverse une grave crise humanitaire et 400 000 personnes vont avoir besoin d'une aide pour faire face à l'insécurité alimentaire en juin, lors de la période de soudure, affirment les Nations Unies. Au Burkina Faso, le Front républicain a organisé ce samedi un meeting à Bobo-Dioulasso. Le Front regroupe les partis favorables à la création du Sénat et la modification de l'article 37 de la Constitution pour permettre au président Blaise Compaoré de se représenter à la présidentielle. La rencontre a été organisée en réaction au tout premier congrès ordinaire du Mouvement du Peuple pour le Progrès, regroupement de l'opposition. Au terme d'une visite de 2 jours au Burundi, le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU sur la prévention du génocide, Adama Dieng, a exprimé sa préoccupation quant à la stabilité politique du pays. Pour lui, il y a clairement une recrudescence de tensions dans le pays à l'approche des élections générales qui se tiendront l'an prochain. Une minute de sport avec le football européen d'abord. Arsenal s'est qualifié samedi pour la finale de la Coupe d'Angleterre en éliminant au tir à but le tenant du titre, Wigan. Le Bayern Munich, déjà sacré champion, a été humilié samedi par 3-0 par son rival Dortmund. En championnat nord-américain de basketball, la NBA, on signale que grâce à leur victoire sur les Phoenix Suns, 112-104, les San Antonio Spurs sont assurés de finir premier de la conférence Ouest. Et puis Miami a repris la tête de la conférence Est grâce à sa victoire sur les Pacers, 98-86. En cyclisme, Alberto Contador a remporté le Tour du Pays Basque samedi. Des activistes pro-russes occupaient toujours samedi des bâtiments publics dans l'est de l'Ukraine et ils ont même étendu leurs opérations en s'emparant d'un bâtiment de la sécurité de l'État à Sloviansk, ont signalé les autorités locales. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a demandé à la Russie de mettre fin à ces provocations, mais le gouvernement russe a nié avoir fourni un soutien aux militants. Kiev a offert des concessions aux manifestants et aux dirigeants de la région en vain. Le gouvernement syrien, les rebelles et un groupe de défense des droits humains affirment qu'un gaz toxique a fait plusieurs blessés vendredi dans le village de Kfar Zeita, dans le centre de la Syrie. Le gouvernement et les rebelles se rejettent mutuellement la responsabilité de l'incident. Le premier ministre australien Tony Abbott a déclaré samedi qu'il faudra probablement un certain temps pour retrouver le vol 370 de la Malaysia Airlines, disparu il y a 5 semaines, peu après le décollage de Kuala Lumpur à destination de Beijing. Il a dit à la presse que la zone de recherche a été considérablement réduite, mais qu'essayer de trouver quoi que ce soit à près de 5 km de profondeur au milieu de l'océan Indien et à 1 000 000 de kilomètres de la côte restera une tâche énorme.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
Le magazine féminin de la Voix de l'Amérique. écoutez le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique avec Nathalie Barge et avec un invité en ligne, Gregory Crowther, responsable régional d'Afrique à MAG, Mines Advisory Group, une ONG qui s'occupe de déminage, notamment dans plusieurs régions. Alors, Monsieur Crowther couvre plusieurs pays, notamment le Tchad, la RDC, le Sénégal, le Burundi, le Mali, l'Angola, entre autres. Monsieur Crowther, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, l'on sait que ce problème est énorme encore. Quand il y a une guerre, le champ de bataille se retrouve également parsemé de mines. Et après donc la bataille, il faut déminer le terrain. Vous êtes basé en Angleterre. Alors, on a l'habitude d'entendre dans les rapports ici et là que très souvent, après un conflit ou même pendant, finalement, les premières victimes sont les enfants, notamment.
C'est vrai, après les guerres, immédiatement après les guerres, souvent il y a un grand problème humanitaire. Normalement, ça c'est avec les gens déplacés par le conflit. Pour les adultes plus sensibilisés, c'est moins un problème. Mais pour les enfants qui jouent avec des choses qu'ils trouvent ou qui ne comprennent pas, il y a quelque chose de dangereux, ils touchent quelque chose et après, bien sûr, c'est un accident. Pour un adulte, peut-être c'est une blessure très grave, mais pour un enfant qui a moins de 10 ans ou 12 ans, il est tué direct. Les mines sont moins utilisées maintenant qu'avant le traité d'Ottawa de 1997. Par exemple, en Mali, les mines sont utilisées par les forces paramilitaires, par les rebelles islamiques ou en Congo, un petit peu par les rebelles qui luttent contre le gouvernement. C'est pas le même problème. On avait des années 80 et des années 90, par exemple en Angola, en Mozambique, où milliards de mines sont utilisées par les gouvernements et par les rebelles. À ce moment, en Afrique, 47 de 48 pays sont pour le traité et qui a dit on ne va pas utiliser les mines jamais.
Pourquoi cela prend-il autant de temps à déminer des lieux en particulier? Est-ce que c'est parce qu'il y en a vraiment beaucoup de ces mines encore?
Oui, bien sûr. Le problème avec ça, c'est difficile à trouver. On n'a pas les cartes comme on a en Europe après la Deuxième Guerre du Monde. Et souvent, on ne sait pas exactement où les mines sont utilisées. Et avec ça, ça prend beaucoup de temps pour trouver, pour nettoyer et détruire. En Tchad, par exemple, il y a 67 districts affectés par les mines maintenant. En Burundi, en fait, même si c'est pas un grand problème, c'est un petit problème, mais ça a pris 10 ans pour nettoyer le pays. On a fini, en fait, la semaine dernière, le dernier champ de mines, et Burundi, maintenant, est déclaré libre des mines antipersonnelles. En fait, le plus grand problème en Afrique, c'est en Angola et Mozambique.
De quelle manière travaillez-vous avec les gouvernements, les autres ONG, etc.?
On travaille très proche avec le gouvernement. C'est notre objectif pour aider dans la lutte contre la mine. On fait la formation dans les régions affectées par les mines. Par exemple, en Tchad, on fait la formation avec les Tchadiennes, avec leur supervision internationale. On utilise un petit peu de machines, mais normalement, c'est avec le détecteur métal. Ça prend beaucoup de temps pour chercher le terrain, trouver les mines, excaver et détruire. Dans une journée, on peut faire 10 mètres carrés par personne.
Oui, alors justement, vous avez parlé du cas du Burundi qui est réglé maintenant. Combien de temps cela pourrait-il prendre pour déminer totalement le territoire tchadien?
Peut-être entre 5 et 8 ans, c'est possible. Par exemple, en Angola, depuis 1992, on a trouvé des milliards de mines antipersonnelles. Mais il y a encore, même si en une province, dans Moshiko, il y a encore 350 champs de mines.
Alors, Monsieur Crowther, dans l'attente que tous les sols soient débarrassés de mines antipersonnelles, quel type de conseils vous donnez pour les familles, pour que les enfants ne soient pas victimes de ces mines antipersonnelles?
On fait beaucoup de sensibilisation avec les gens qui habitent proche des mines. On fait les jeux avec les enfants, on fait les chansons contre les mines, les posters et les programmes radio. On utilise beaucoup de médias, des messages pour donner le conseil comment éviter les champs de mines, comment reconnaître et qu'est-ce que vous faites. Pour ça, on utilise les messages spécialisés différents pour les enfants que pour les adultes.
Merci beaucoup donc pour cet entretien, Greg Crowther, responsable régional d'Afrique pour MAG, Mines Advisory Group, une ONG basée en Angleterre et qui se charge de déminage dans certaines régions d'Afrique et d'autres régions du monde.
paroles de femmes.
Écoutez le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique avec Nathalie Barge et une invitée avec nous ici à Washington, une Malienne, Madame Koumaré Amina Cissé, directrice générale de la Cité des enfants du Mali. Alors Madame, merci beaucoup d'être avec nous, d'être venue nous rendre visite à La Voix de l'Amérique.
Et c'est moi qui vous remercie, Nathalie.
La Cité des enfants qui est à Bamako, au Mali, dépend du ministère de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant. Vous êtes là pour nous en parler. C'est une structure qui est vraiment très intéressante pour les enfants, pour l'enfance, pour la jeunesse, l'avenir donc du pays.
Oui.
Est-ce que vous avez l'intention d'en créer d'autres dans d'autres localités du Mali, à l'intérieur du pays éventuellement ?
C'est une direction générale qui est à Bamako. On n'a pas prévu pour le moment de créer d'autres structures qui seront rattachées à cette cité. Peut-être ce serait dans l'avenir, mais pas pour le moment.
Alors, cette cité des enfants, finalement, elle a un caractère scientifique, technologique et culturel. Mais qui sont ces enfants qui peuvent bénéficier de cette structure ?
C'est tous les enfants du Mali qui bénéficient de cette structure. Nous recevons toutes les catégories d'enfants. Et pour preuve, la dernière activité qu'on a eu à organiser, on a une activité qui s'appelle la Semaine nationale de l'enfant, qu'on organise chaque 2 ans. Et puis on invite tous les enfants qui viennent de toutes les régions du Mali, de Kaya Kidal.
Ça, et c'est gratuit ?
Oui, c'est gratuit. Mm-hmm. L'accès est gratuit.
Mais est-ce que vous privilégiez quand même des enfants qui sont vraiment dans le besoin, qui n'ont pas forcément...
Oui, on prend en compte. On prend en compte, j'allais en venir, on prend en compte. Parce qu'avec la crise, il y a une nouvelle catégorie d'enfants qui est venue. Les enfants déplacés, les enfants non accompagnés, on les a pris en compte. On a les enfants démunis, on les reçoit également dans le centre à travers des structures qui les encadrent, comme au SAMI social. On a les enfants des centres d'écoute communautaire, c'est aussi des enfants démunis, une catégorie d'enfants. On a les enfants de la rue, qu'on reçoit aussi à travers le SAMI social. On a les enfants dans la rue. On a les enfants que nous recevons des écoles publiques et les médersas qu'on reçoit également.
Mais il y a des enfants qui restent là-bas tout le temps, qui sont
pensionnaires. Non, ils ne sont pas pensionnaires. Ils viennent pour des activités bien indiquées.
Mais alors ces activités, c'est quand ? Parce que comment vous coordonnez avec l'école ?
C'est-à-dire, nous, notre principale mission même, c'est l'occupation saine du temps libre de l'enfant.
Le week-end,
les mercredis, jeudi, samedi, dimanche, les vacances scolaires, les vacances de Noël, les grandes vacances, on propose des activités. Voilà, donc on a une catégorie d'enfants aussi, les enfants handicapés par exemple, les enfants handicapés visuels, handicapés auditifs, handicapés intellectuels, handicapés physiques. On a les enfants aussi que Plan Mali nous apporte, on a les enfants que l'UNICEF encadre. Il nous amène donc, on a beaucoup d'activités, nous recevons pratiquement toutes les catégories d'enfants. J'ai une petite équipe de 35 personnes, hommes et femmes.
C'est une bonne équipe ça déjà.
Oui, bon, c'est une bonne équipe, plus la direction. Donc souvent on fait des sorties pédagogiques avec des visites guidées pour aller connaître peut-être quelques régions du Mali. Avec des groupes d'enfants, nous organisons des visites guidées, des excursions sur les sites touristiques, historiques, pour permettre aux enfants de connaître quand même le pays.
Alors à ce propos, vous sortez d'une guerre, une guerre violente. Les enfants en ont beaucoup souffert. Vous faites des débats, notamment sur la violence, la guerre, etc. Donc avec ces enfants. Ce passé très proche fait partie de votre histoire. Donc est-ce qu'il y a un programme spécial pour ces enfants, pour leur enseigner ce qui s'est passé et en tirer les leçons et parler notamment de votre patrimoine?
Voilà, donc nous organisons des débats intergénérations. Donc, comme je vous ai dit, pendant la guerre et après la guerre, il y a une nouvelle catégorie d'enfants, les enfants déplacés. Ils étaient un moment au centre de tout ce que nous faisons au Mali. Pas seulement les enfants déplacés, même les enfants que nous recevons régulièrement. Nous les sensibilisons par rapport à la violence, par rapport à ce qui s'est passé dans le pays et par rapport à la préservation de nos valeurs positives, de notre culture, de tout ce qui est patrimoine culturel.
Chez
chères auditrices et auditeurs, le magazine au féminin de la Voix de l'Amérique est sur Facebook. Cliquez sur like si vous aimez. Vous pouvez vous exprimer librement sur cette page, sur des sujets qui vous concernent et vous intéressent particulièrement. Vous pouvez également proposer des invités, proposer des sujets et participer à une émission. Vous pouvez écouter le magazine au féminin sur le site de La Voix de l'Amérique. Cette émission hebdomadaire est diffusée tous les samedis à 19h30, temps universel. Dans toutes les activités, vous allez nous en citer quelques-unes, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai noté un point que je trouve vraiment très sympa, c'est au niveau environnemental et artistique. C'est très artistique, la récupération des sachets plastiques et des journaux. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus en Afrique, mais on fait des choses formidables avec tout ça. Et en plus, on préserve l'environnement.
Et
j'ai même l'impression que l'Afrique le fait mieux que les pays occidentaux, parce que nous, ici, on est submergés, vous avez dû le remarquer, de sacs plastiques.
Voilà. Donc, par exemple, si vous prenez une activité que nous organisons, qui s'appelle journée thématique, elle est répartie comme suit. Donc, au matin, quand les enfants viennent à la cité des enfants, après le salut du drapeau, nous allons en salle. Après, on a une rubrique sanitaire. On a un spécialiste pour ça qui vient sensibiliser l'enfant sur les règles élémentaires de l'hygiène. Se brosser les dents, se laver les mains au sortir des toilettes. Après, on a 10 minutes, une autre rubrique qui s'appelle rubrique sur la citoyenneté. On peut parler à l'enfant, par exemple, le respect du bien public. Ne pas gâcher l'eau.
Instruction civique.
Instruction civique et morale, parce que ça fait partie de nos missions. Donc, après la rubrique citoyenneté, on prend un thème. Pour la journée, le thème peut être sur l'environnement, comme vous voulez le dire. On sensibilise l'enfant. Ça, c'est les déchets plastiques, sur les méfaits, sur les conséquences. Parce que comme on le dit, nous, on a un proverbe qui dit que l'enfant, c'est une argile fraîche. Donc, il faut modeler, c'est la société qui lui donne les contours qu'il faut. Donc, c'est pourquoi nous passons par cette tranche d'enfants, pour les sensibiliser. Nous prenons souvent les thèmes sur la violence. Sensibiliser les enfants par rapport à toutes les violences qui sont faites à la femme, à la fille. Seulement, la cité n'existe qu'au Mali pour le moment. Et puis, elle est créée à l'image de la cité des sciences. Donc, elle a quelques composantes. Il y a le Parlement national des enfants du Mali qui se trouve à la cité des enfants. On a la direction générale, on a le quartier des enfants et puis on a le parc d'attractions. Et chaque entité a ses composantes.
L'environnement, la science et l'environnement, c'est quand même, malheureusement et heureusement, on ne sait pas, c'est les métiers d'avenir aussi.
Oui, c'est vrai.
C'est très en vogue. Et l'Afrique est un petit peu précurseur d'une certaine manière à ce niveau-là. Et les enfants sont de plus en plus sensibles à cela.
Oui, bon, je crois que nous, tant bien que mal, nous faisons beaucoup de sensibilisation dans ce sens. Parce que l'enfance, quand même, c'est le futur. Comme on le dit, on doit les sensibiliser par rapport à tous les problèmes d'avenir. Or, on a même une petite rubrique qui s'appelle l'arc urinaire, par exemple. La petite cuisine, c'est garçons et filles.
C'est bien.
Oui, c'est bien. C'est garçons, ça les intéresse. Ils viennent, voilà, c'est les garçons et les filles. On a un slogan aussi, le slogan de la cité des enfants. C'est travailler avec les enfants, c'est la joie au quotidien. On a des ateliers, nous organisons également des ateliers de Bogola. Puis il y a la fabrication d'instruments traditionnels de musique, les journées sportives, les journées ludiques, les sciences d'animation sanitaire. Donc on a aussi des journées de consultation avec don de médicaments. Donc on a aussi des journées, des débats intergénérations. Parce que nous convions souvent les personnes âgées, nous proposons un thème.
Donc, Madame Koumari Amina Cissé, avant d'avoir été à la Cité des Enfants depuis 2008, vous êtes journaliste de formation.
Oui, traducteur et interprète.
En russe.
Russe-anglais.
Et vous avez créé une émission qui existe encore qui s'appelle justement « Nous les enfants ». Vous pouvez nous en parler brièvement?
Voilà, « Nous les enfants », c'est une émission quand j'avais commencé à l'ORTM. C'est une émission que j'avais proposée sur la télévision malienne. Je faisais la conception, la présentation. C'était une émission de 30 minutes hebdomadaire qui passait tous les dimanches sur la télévision malienne. C'était également une émission qui était divisée en différentes rubriques. Donc, chaque rubrique était destinée à un groupe d'enfants spécifique. Et puis, chaque rubrique avait son objectif. J'avais, par exemple, une rubrique qui s'appelait et que j'ai transporté d'ailleurs avec moi, que j'ai amené avec moi à la Cité des enfants, qui s'appelle « Je veux savoir ».
Ah oui.
Je veux savoir, ça c'est des expérimentations.
Je veux savoir, il y a la rubrique « Je sais » aussi déjà.
Je sais, je sais, je sais le faire, je sais.
Je repère, j'expérimente.
Donc voilà, je me repère. Généralement, ça c'est les valeurs positives de notre société. Par exemple, les repères, comme chaque société a ses réalités, chaque pays, chaque nation a ses réalités socio-culturelles. C'est des valeurs vraiment qu'on doit conserver. C'est très important.
C'était Kumaré Amina Cissé, avec nous ici à Washington, directrice générale de la Cité des enfants du Mali, qui est à Bamako, dont nous venons de parler, et qui dépend du ministère de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant. Merci beaucoup, madame. À très bientôt.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Et merci à tous nos auditeurs.
Entre parenthèses.
Vous écoutez le magazine au féminin de la Voix de l'Amérique avec vous, Nathalie Barge. YALI, Young African Leaders Initiative, ou l'Initiative pour les jeunes leaders africains, est une initiative clé du président américain Barack Obama dans ses efforts pour mieux impliquer la future génération de jeunes entrepreneurs et innovateurs africains. Le programme d'échange ayant débuté en 2010 connaît un succès grandissant, notamment grâce à l'interconnectivité via Twitter entre ces jeunes leaders africains et les ressources du gouvernement américain. Le département d'État, qui a lancé cette année son programme de bourse Washington Fellowship, s'apprête à sélectionner 500 jeunes bénéficiaires sur le continent. L'un des objectifs de cette initiative est de permettre aux jeunes Africains, doués d'un fort potentiel de leadership, d'être les principaux acteurs de la croissance économique de leur pays et de leur continent. Au cours d'un entretien téléphonique, le sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, David Gilmour, a dit qu'il était totalement confiant quant à l'avenir de cette jeunesse africaine. Écoutons-le.
En 2012, nous avons invité les jeunes entrepreneurs africains aux États-Unis pour un échange, un programme. Quand le président Obama a voyagé en Afrique au mois de juin de 2013, l'année dernière, il a annoncé une expansion majeure de cette initiative et nous avons créé un programme de bourse qui s'appelle le Washington Fellowship. C'est un programme nouveau et on est en train de lancer ce programme cette année. Le but du programme, c'est d'établir un réseau entre les jeunes leaders africains. Et aussi, ce programme de bourse va offrir aux 500 jeunes leaders africains de venir aux États-Unis pour suivre un cours dans une université. Et nous avons les cours dans trois domaines, la formation en commerce et entrepreneuriat, l'administration publique et le leadership civique. À partir de juin de cette année, on a offert ce cours pour 500 boursiers qui vont venir aux États-Unis. Nous sommes en train, de choisir les 500 participants maintenant, et nous avons reçu des milliers de demandes.
Alors, le choix va être très difficile. En effet, on imagine que c'est très populaire. Bah, finalement, quels sont les critères pour retenir les heureux gagnants de cette bourse?
Ils doivent être âgés entre 25 et 35 ans, donc les jeunes Africains. Et ils font preuve de leur leadership dans leur organisation privée ou civique. Ils doivent montrer leur talent et leurs compétences au service de leur communauté. Ils ont fait les demandes en ligne et nous avons un système. On a déjà reçu toutes les demandes et nous sommes en train de choisir les candidats.
Quel est l'objectif principal à travers ce projet qui est vaste, hein, on le comprend bien, c'est un projet de sensibilisation, de formation. Est-ce que le principal objectif est de créer de l'emploi, par exemple?
Tout le monde sait que l'Afrique est en train de changer et il y a beaucoup de croissance économique maintenant. Il y a une croissance démographique en Afrique et on dit que 60% de la population africaine à moins de 35 ans. Donc, nous avons beaucoup de jeunes en Afrique et nous pensons qu'il y a beaucoup de talent et nous voulons encourager ce talent. Nous voulons établir les liens entre les Américains et les jeunes leaders africains. Je pense que nous avons beaucoup de choses à partager. nous voulons participer dans la vie des jeunes leaders africains. C'est la prochaine génération des leaders, n'est-ce pas?
J'aimerais bien savoir dans tout ça, finalement, mais qu'est-ce que vous avez prévu justement en direction des femmes?
Ça, c'est très important pour nous. Et nous, on met l'accent sur les jeunes filles. C'est pour ça que nous avons eu le programme en 2011 avec Michelle Obama. Et nous allons assurer qu'il y aura une bonne participation des jeunes filles dans ce programme. C'est quelque chose que nous voulons encourager, c'est sûr.
Il va y avoir un quota dans la sélection ou comment vous allez procéder pour tenir compte de la présence des filles? Parce que moi, j'imagine bien qu'il doit y avoir, dans toutes ces demandes qui vous sont faites, il doit y avoir une grande majorité de jeunes hommes quand même.
Oui,
non?
Oui, mais nous allons faire un effort de chercher les bonnes candidates des jeunes filles.
Est-ce que c'est important la question économique?
Ah, c'est très important parce que tous les pays d'Afrique, ils ont le problème du chômage entre les jeunes. C'est évident que c'est le secteur privé qui va créer les emplois, n'est-ce pas? Et nous voulons certainement encourager la croissance économique et plus d'échanges commerciaux. Et c'est très important, oui.
Vous êtes en relation finalement avec des jeunes qui sont dans des pays très pauvres, hein, en Afrique notamment, dans des pays en guerre également. Est-ce que vous avez des jeunes centrafricains qui sont, étant donné la situation aujourd'hui, qui sont bien connectés avec vous dans ce projet?
Oui, oui, et nous avons des candidats de la République centrafricaine et nous sommes en train de réviser leurs applications. Mais oui, nous aspirons à recevoir les candidats de tous les pays de l'Afrique. C'est une question de développer leurs capacités professionnelles qu'elles peuvent réussir dans leur carrière, dans n'importe quel domaine. On veut renforcer la capacité professionnelle de chaque participant. Nous sommes ravis d'offrir cette opportunité, ce programme, et nous sommes très optimistes sur l'avenir d'Afrique et les jeunes Africains. Je pense que ce programme va être un grand succès. Il y a beaucoup d'intérêt parmi les jeunes Africains.
C'était le sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, David Kilmour. Et c'est ainsi que se referme le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique. Avec vous, c'était Nathalie Barge. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky, you rise.
Khawuleza. Khawuleza is a South African song. It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, Khawuleza mama, which simply means, hurry mama, please, please don't let them catch you. Khawuleza mama, Khawuleza mama, Khawuleza mama, Khawuleza mama, Khawuleza mama, sheshi sawo. Nanga mapoyisa zonke.